Donc Jésus s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Après ça, il retourne à Jérusalem. Et le Seigneur leur avait dit de rester à Jérusalem et d'attendre la venue du Consolateur de l'Esprit. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, donc d'où était parti Jésus, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient là tous ensemble, ils priaient. Ils attendaient la promesse du Seigneur. Après, ils nomment un disciple pour remplacer Judas. Donc, ils ont nommé Matthias. Et après, on va lire au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue ? Notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de l'hindou. » Donc la question, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et alors après, il y a Pierre qui fait un discours, je ne vais pas le lire, mais... en entier, donc Pierre fait un discours où il parle déjà de ce qui avait été annoncé par le prophète Joël en disant que dans les derniers jours, il y aurait des prophéties, que le Saint-Esprit viendrait dans les croyants. Ensuite, il parle du sacrifice du Seigneur Jésus. Il parle aussi de sa résurrection. Et puis après ça, je vais lire à la fin. Donc, après la résurrection, la glorification du Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, c'est verset 35, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce Jésus. Avant le discours de Pierre, qu'est-ce que cela veut dire?
Il y a le discours de Pierre, ils sont touchés, ils disent « Mais que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 personnes. Dans la chambre haute, ils étaient 120, je crois, à peu près. Et à la fin du. Après cette venue du Saint-Esprit, après ce discours de Pierre, 3000 convertis. Ça nous fait envie, on se dit, mais ça serait formidable, hein, 3000 convertis d'un coup, comme ça. C'était cette puissance du Saint-Esprit qui est arrivée là. Ce jour de la Pentecôte, c'était un jour de fête. Enfin, c'était une fête de l'Éternel, une fête qui datait du temps de l'Exode, hein, du temps du peuple. On la trouve, c'est la fête des semaines ou des premiers fruits. Donc, on la trouve expliquée en Exode 34, en Lévitique 23 ou dans d'autres passages. Et c'était les premiers fruits, c'était une fête qui avait lieu 50 jours après la Pâque. Donc, le Seigneur est monté au ciel 40 jours après sa résurrection et 10 jours après. Donc, c'est ce qu'on a lu là entre le moment où ils sont retournés à Jérusalem, où ils priaient dans la chambre haute, ils étaient ensemble avec tous les disciples et plusieurs autres, y compris la mère de Jésus qui était avec eux et les frères de Jésus. Eh bien, ça a duré 10 jours. On a fêté l'ascension. Et puis donc aujourd'hui c'est la Pentecôte. Tout le printemps, moi je trouve que c'est beau parce qu'on a la Pâque, on a des fêtes qu'on fête toujours, hein, dans une période, dans un monde quand même où de plus en plus on dit il faut aucun signe religieux, la laïcité par-ci, la laïcité par-là. Et en fin de compte, Dieu permet qu'il y ait des fêtes comme ça qui restent bien ancrées et qui continuent à se fêter. Il y a toujours la Pâque, il y a toujours l'Ascension, il y a toujours la Pentecôte. Et voilà. Et donc, ces premiers fruits, ces fruits qui étaient récoltés, eh bien là, c'était le début de la saison des fruits. Et là, cette Pentecôte, c'est le début de l'Église, de la saison de l'Église. C'est les premiers fruits qui sont récoltés après l'œuvre de Jésus. C'est ces fruits qui vont être vraiment extraordinaires. Il va y en avoir une récolte extraordinaire au fil des ans. Ils ne pensaient pas à l'époque que 2000 ans après, il y aurait encore cette construction de l'Église, que ça continuerait, qu'il y aurait des millions et des millions de chrétiens. Il y a plus de. D'ailleurs, ça a été exponentiel, hein, puisqu'on dit toujours qu'il y a plus de chrétiens aujourd'hui dans le monde que ce qu'il y a eu pendant tous les siècles, pendant 2000 ans. Et. Là, au Parcours Alpha, on a eu une vidéo dans laquelle il citait la Chine. La Chine, il y a 100 ans, il n'y avait presque pas de chrétiens en Chine. Et maintenant, il y en a 100 millions. Et pourtant, ce n'est pas un pays chrétien du tout. Et Dieu a voulu, comme ça, c'était le plan de Dieu que le christianisme avance et remplissent le monde entier pour que quand le Seigneur vienne, eh bien, il y ait des possibilités de croyants partout, qu'on ne puisse pas dire bah, « Tiens, moi je suis dans telle région et je n'ai jamais entendu parler du Seigneur. » Le Seigneur permet que son évangile aille d'une façon ou d'une autre partout. Ça, c'est quelque chose de. C'est l'œuvre de Dieu qui est comme ça. Elle est mystérieuse. Elle est pas. On a une petite vision. Nous, vraiment, on a une petite vision. Mais Dieu a cette grande vision de cette Église qu'il construit. Et je vais le redire, mais je l'ai déjà dit souvent, mais Pour moi, c'est une erreur de dire l'Église est en ruine, parce que j'ai tellement souvent entendu dire ça. L'Église est en ruine, non. L'Église, elle est en pleine construction et elle va arriver bientôt à sa maturité complète, à cette beauté parfaite que le Seigneur voit. Et il l'a construit, il l'a nourrit, il l'a chéri, elle se bâtit. Et il a pour ça envoyé l'Esprit Saint. Il a dit à ses disciples, il a dit, je vais vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité, et vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Et ce qu'il a dit, c'était étonnant. Il a dit, mais si je m'en vais, ce sera un avantage pour vous, parce que à la place, je vous enverrai cet esprit, et cet esprit fera en sorte que je serai à travers lui sur la terre. Et je serai non pas dans un bâtiment, parce que l'Église, c'est pas du tout des bâtiments, je serai dans cette Église qui est les chrétiens, qui sont les miens, sur lesquels et dans lesquels je vais envoyer cet esprit. Et vous en tant que chrétiens ayant l'esprit, eh bien, vous êtes l'Église. Et l'ensemble de tous ces croyants qui chacun ont l'Esprit Saint en eux, eh bien, c'est ça l'Église. Et c'est pour ça que l'Église, elle est réellement unie. On dit, oui, ben c'est choquant de dire que l'Église est unie. Non, il y a des différences, il y a des spécificités dans la façon de rendre culte, dans la façon d'être. Bon, on a chacun nos particularités, le CEP a les siennes, nous on a les nôtres, les ADD ont les leurs, etc. Mais c'est la même Église. Et ça, c'est hyper encourageant, je trouve, quand on réalise ça, quand... Nous, on l'a spécialement réalisé depuis l'année dernière, là, depuis cette pandémie. On a spécialement, grâce à Internet, on a vraiment réalisé, Sylvie et moi, et beaucoup d'autres ici et ailleurs, ce que c'était réellement que l'unité de l'Église. On est tous en Christ, unis à Christ, le corps de Christ, tous autant et aimés de Christ. Et chaque petite assemblée, comme grande assemblée, est aimée et Christ la voit comme belle et comme faisant partie de son corps. Il s'est certainement réjoui d'être là, il se réjouit d'être au milieu de nous. Aujourd'hui, ici, il se réjouit d'être au CEP. Là, en arrivant, on a croisé des amis du CEP. Bonjour, grand sourire, chaleur. Il dit, ah, ben, c'est la Pentecôte, on est heureux aujourd'hui. Je dis, oui, c'est la Pentecôte, on est heureux, on va célébrer la Pentecôte, bon culte. Tout, ils étaient tout contents de nous rencontrer, on était tout contents de les rencontrer. Et voilà, il faut voir ça comme quelque chose de positif, quelque chose d'extraordinaire, cette diversité dans l'expression de ce qu'est l'Église. Et c'est ce qui fait, pour Jésus, c'est ce qui fait sa joie. Et c'est comme une pierre précieuse qui a été taillée, et puis des facettes tout autour, des facettes qui sont belles, qui reflètent sa gloire. C'est une seule pierre, mais il y a plein de facettes. Et l'Église, c'est ça, en fait. Et là, c'était le tout début, vous voyez, c'est hyper encourageant de se dire comment ça s'est passé. Ils étaient tous réunis ensemble, ils étaient pas... dans l'excitation, ils étaient, il est dit, ils étaient tous persévérés d'un commun accord dans la prière. Alors, il est dit qu'ils étaient, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un bruit violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis tranquillement, ils étaient ensemble, un peu comme on est là, assis. Certainement, ils étaient dans la communion, dans la prière. Et puis, il y a eu cet esprit qui est arrivé d'une façon forte, violente quelque part, hein, comme une tempête tropicale un peu. Mais l'esprit, il se manifeste de différentes façons. Il peut se manifester dans la douceur, dans la puissance, dans la force. Ça me fait penser à Élie quand il attendait la voix de Dieu, et puis Il y a eu justement une tempête, et puis Dieu n'était pas dans la tempête. Il y a eu plusieurs événements, plusieurs choses qui l'ont marqué. Et puis à la fin, c'était une voix douce et subtile. Dieu, son esprit, il est très varié dans son expression. Il est pas, et ça aussi, c'est important à dire et à rappeler que l'unité, c'est pas l'uniformité, c'est pas dans certains milieux chrétiens, l'esprit va se manifester d'une façon dans certaines populations, parce que suivant les pays, on n'a pas la même façon de s'exprimer. Ah, t'es sympa, merci. On est plus ou moins expansif, hein. On voit bien que en Afrique, c'est pas forcément pareil. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, mais après, bon, c'est le même esprit. C'est le même esprit, mais la manifestation sera différente. Et si vous allez dans certains milieux charismatiques, bon, c'est différent. Mais c'est le même esprit. Et donc là, il est arrivé comme des langues de feu, quelque chose de fort, de violent. Et ils se sont mis à parler des langues étrangères. Alors justement, pour revenir à cette fête, pourquoi c'est pas Dieu ne fait rien par hasard, hein. Et pourquoi c'est tombé, pourquoi ça correspondait à cette fête, le moment où l'esprit est venu, c'est parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui venaient de la diaspora, hein, des différents pays, mais ils venaient à cette fête des premiers fruits, là. Fête des semaines où se fête des premiers fruits. Et ils venaient pour la fête. Et donc, ils arrivaient de tous les pays où ils étaient dispersés. C'était pas différent de maintenant. Oui. Il y a des Juifs dans tous les pays. Ils ont toujours été un peu partout, un peu des représentants de Dieu dans le monde. Et ils étaient là pour la fête. Et ils parlaient même pas, parce que les choses de Dieu, ce qui correspondait à la parole de Dieu, enfin, c'était même pas la langue courante, hein, qui parlait araméen là-bas. Et en fait, tout ce qui était religieux, c'était l'hébreu. C'est un peu comme ça a été le latin longtemps. Bon, et donc ils étaient étonnés de comprendre. Et en plus, non seulement c'était pas qu'en araméen qu'ils parlaient, mais ils parlaient en grec, enfin, il y a toute une citation, il y en a plein. Hein. Les Perses, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, la Mésopotamie, Cappadoce, la Judée, bon, la Judée, justement, c'était. Et le Pont, l'Asie, la Phrygie, et tout ça dans des langues courantes, dans des langues qu'on utilise tous les jours. Ça les a beaucoup marqués, tous remplis d'étonnement. Alors, bien sûr, ceux qui entendaient parler dans d'autres langues en même temps, ils disent, mais enfin, ils sont saouls. Il y a eu toutes les réactions, comme il y a toujours toutes les réactions. Et des réactions, Dieu s'attend à des réactions positives, et c'est ça qu'on doit avoir, c'est des réactions positives, pas tout de suite avoir, oula, ceux-là, ils sont bizarres, j'ai été dans tel pays, je les ai vus, ils dansaient, ça se trouve, ils avaient bu. Oui, on a vite fait de juger. Hein. Et attention de ne pas juger les uns et les autres, de ne pas se juger. Et puis, donc, ils ont posé cette question. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'heure du cantique.
Juger.
Il est beau en plus. Merci. Non, faut pas juger. Il y a eu un téléphone tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il y a eu. C'est le modernisme. Voilà. Donc là, il se pose la première question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et après, il y a Pierre qui fait son discours où il explique les choses. Et après, la question suivante, c'est que ferons-nous? Et donc, Pierre leur dit, ben, repentez-vous, soyez baptisés. C'est ce qui se passe. Et après, on voit que si on continue dans le livre des Actes, les premiers chapitres, on voit l'évangile qui se propage parce qu'ils ont tous essaimé, ils ont tous qu'est-ce qu'ils ont fait, ben ils ont cru, ils se sont fait baptiser et puis ils ont témoigné. témoigner. Et on voit qu'il est dit, alors je ne sais plus où c'est exactement, mais il est dit que l'évangile allait se propager en commençant par la Judée, en continuant par la Samarie, et puis dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé, on le voit après. Après, ça a été dans cet ordre-là. Mais très rapidement, très rapidement. Alors qu'il n'y avait ni Internet, ni train, ni quoi que ce soit. Il y avait des bateaux, mais c'était assez dangereux de voyager. Et bien pourtant, tout s'est propagé. Et en particulier, il y a une chose étonnante, mais c'est pareil, c'est les voies de Dieu. Ce qui a fait le plus se propager l'évangile au début, c'est la persécution, parce qu'ils ont été persécutés en Judée, et du coup, ils sont partis à Antioche, et puis de là, ils ont évangélisé tous ceux qui se sont enfuis devant la persécution, mais ils ont évangélisé plus loin, et ils ont été de plus en plus loin. Jusqu'à, justement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est dans le monde entier. Donc, pour revenir au Saint-Esprit, donc ce qui est vraiment à retenir, c'est que le Saint-Esprit, il est pas descendu comme une puissance mystérieuse quelque part, ou quelque chose qui est insaisissable, qui est juste une puissance. C'est Dieu qui est venu. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Il n'est pas parlé de la Trinité dans la Bible, il n'y a pas ce mot. Mais la Trinité, elle existe, c'est-à-dire que réellement, il y a Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ils sont sur le même plan de puissance, c'est Dieu à chaque fois. Ça veut dire que Dieu est venu en nous. C'est quelque chose qui est... D'ailleurs, il y a un verset qui dit, mais attention, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nos corps, c'est quand on parle de temple, quand on parle... De temple, et ben c'est nos corps, on est réellement un temple pour Dieu. On a ce cantique où justement qu'on a chanté là, on va dans le temple de Dieu, mais on est nous-mêmes en plus ce temple. C'est vraiment mystérieux, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a permis. C'est à réfléchir, c'est vraiment à prendre en compte ça. C'est que Dieu est un tout en étant plusieurs, tout en étant trois. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. Bon, après, il y a différentes possibilités pour le comprendre. Hein. J'ai entendu Eric Sellerier qui expliquait, mais je n'arriverai pas à l'expliquer, mais il a comparé un peu ça à un câble où il y a trois fils dans un câble électrique. Et les trois fils ensemble amènent l'électricité, mais un fil tout seul, il ne l'amène pas. Et quelque part, il disait, c'est un peu comme le fil de terre qui est Jésus qui est venu sur la terre, le neutre qui serait le Saint-Esprit et la phase qui serait Dieu le Père. Et les trois ensemble amènent le courant électrique. Sinon, il n'y a pas, ou s'il manque le fil de terre, s'il manque Jésus, l'œuvre de Jésus, eh bien, le courant, ça va être quelque chose de violent. C'est un peu comme ça que Dieu était ressenti dans l'Ancien Testament, comme quelqu'un de puissant, mais pas, il n'y avait pas ce côté humanité, ce côté qui relie Dieu à la terre, et qui fait qu'il est devenu... C'est en ça que le courant qui est envoyé n'est pas dangereux, parce qu'il y a la puissance, mais en même temps, il y a le fait qu'on ne peut pas s'électrocuter. Autrefois, quand quelqu'un voyait Dieu, il y avait cette peur, il y avait cette peur devant Dieu, hein, il y avait cette crainte. Et les personnes disaient, mais on a vu Dieu, on va mourir. Il y avait cette notion de... Si on voyait Dieu, on mourrait. Et même Moïse, quand il a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu a dit non, mais attends, je vais mettre ma main, tu vas me voir de dos, mais tu ne peux pas voir ma face et vivre. Et maintenant, depuis que Jésus est venu, depuis qu'il a connecté, en fait, il a enlevé cette dangerosité, il a amené le côté, un côté humain à Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu dit, mais je vais vous faire semblable à moi, je vais vous faire à mon image. Et Dieu, il a fait beaucoup plus que ça, puisqu'il est venu se faire à notre image. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est ce qui fait le... C'est pour ça que quand on compare les religions, puis qu'on dit, oh ben, comme on l'a... Malheureusement, on l'entend souvent, hein, oh ben, le christianisme, c'est une religion comme une autre. Hein. Il y a le bouddhisme, bien sûr, il y a ça. Bon. C'est une religion comme les autres. Moi, je respecte. Hein. Souvent, on entend ça. Hein. Moi, je respecte. Hein, je respecte toutes les religions. D'accord. Mais c'est pas du tout pareil. Dans quelle religion est-ce que... On a ce Dieu qui est saint et puis qui vient et qui meurt à la place de sa créature. Ce n'est pas quelque chose que l'être humain peut concevoir, peut imaginer. Et c'est ça qui doit alimenter aussi notre foi. C'est qu'on ne peut pas se dire que c'est un homme qui a inventé cette religion. Parce que c'était au-delà de tout ce qu'un homme peut inventer. C'est un mystère, c'est quelque chose de très mystérieux. Voilà. Et aussi, oui, Dieu s'est toujours présenté comme pluriel, parce que dans la Genèse, quand il dit, au moment de la création, pour revenir au fait que de la Trinité, au moment de la création, il dit, alors je sais pas, dans les traductions évidemment, c'est pas évident à revoir, mais il dit, Dieu créa le ciel et la terre, il dit nous.
Faisons l'homme.
Hein?
C'est dans la note.
C'est dans la note, peut-être. Voilà, j'avais entendu quelque chose là-dessus et c'est devenu vague dans ma tête. Oui, donc créons, faisons l'homme. Voilà. Et puis il y a l'esprit qui plane. Mais on ne voit pas encore, justement Jésus c'est un mystère qui a été révélé à partir du Nouveau Testament, ça. Hein, il y a un verset où il est dit, mais est-ce que tu connais Dieu, est-ce que tu connais son Fils, dis-moi son nom si tu le connais. Enfin, c'était mystérieux. Et puis quand Jésus se présente aux parents de Samson, le père de Samson, il se présentait pour annoncer la naissance. Le père, il dit, mais quel est ton nom? Il dit, ah mais mon nom, c'est un mystère, quoi. Il ne donne pas son nom. Son nom, il ne pouvait pas encore le donner. Par contre, il a quand même été annoncé par les prophètes. Hein. Et annoncé, Emmanuel, Dieu avec nous. On voit toute cette préparation, mais qui restait quelque chose d'obscur. Il ne comprenait pas, bien. Mais quand Jésus est arrivé, puis que les prophéties ont commencé à s'accomplir, eh bien, bizarrement, c'est les chefs religieux qui auraient dû le plus comprendre ce qui se passait, qui ont compris, mais justement, ça ne leur a pas plu. Et ils ont été jaloux, ils ont eu les réactions qu'on connaît. Ils n'ont pas eu les bonnes réactions. Mais les disciples, ils ont eu du mal à comprendre. Ils ont réellement... Quand on voit Pierre, là, dans ce discours, par exemple, il a la première fois qu'on voit Pierre comme ça, dans un discours construit, c'est l'Esprit. Il avait reçu l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit qui parlait à travers lui. Parce qu'avant, juste avant, il avait renié le Seigneur, et ça a été difficile. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais dans l'idée de dire, mais enfin, c'était un petit peu pour situer ça et puis en parler ce jour de la Pentecôte, parler de l'Esprit Saint, et puis se dire que c'est quelque chose d'important, de très important, cet Esprit que Dieu a mis en nous, à notre conversion, et qui fait qu'on est unis à lui, on est unis au Seigneur. Il nous appelle ses frères, comme on dit souvent, comme on rappelle, comme il l'a dit. Il nous appelle ses frères. On est les enfants de Dieu. On est frères et sœurs ensemble. On est unis, comme lui est uni à Dieu. Et tout ça, ça fait un tout. Et on sera unis avec Jésus pendant l'éternité, comme une épouse est unie à son mari. C'est magnifique, tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il fait. Et que ça alimente nos pensées, notre réflexion, que ça nous fasse du bien dans notre communion avec le Seigneur. Et 3000, oui, il y avait ça aussi, mais enfin, ce n'est pas que j'avais noté, c'est que la différence entre la période de la grâce et la période précédente, il y a eu 3000 sauvés, et quand Moïse est descendu de la montagne avec les tables, il paraît que c'était à la même fête, en fait, aussi à la fête des prémices. Ils avaient fait le veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un châtiment et il y a eu 3000 morts. Et vous voyez ça, cette espèce de... Ce miroir, je ne sais pas comment appeler ça, cette différence que Dieu souligne entre la loi et la grâce. La loi, l'homme est perdu, l'homme, ça ne marche pas. Ça a été donné pour prouver que l'homme était incapable de la respecter. Et ça commence par 3000 morts. Et la grâce, ça commence par 3000 vivants. 3000 vivants pour l'éternité. Voilà, gloire à Dieu.